Nous sommes donc à la Baraque au Paquis, c'est la deuxième émission que l'on opère ici à la Baraque au Paquis, donc cette rue de Berne numéro 49, juste au pied du temple des Paquis, là où s'y trouve plein de solidarité, il y a des soupes populaires, c'est un lieu de rencontre également, et la Baraque au Paquis qui siège ici, eh bien, permet également des activités de différentes associations locales du quartier, notamment les livres nomades et d'autres choses dont on a déjà parlé et dont on reparlera. Philippe Prête, bienvenue à toi.
Merci, bonjour.
Bonjour, alors nous t'accueillons parce qu'effectivement, là aussi, on va parler d'un projet de longue haleine, pourrait-on dire, puisque ça fait 5 ans que tu t'y attelles, si j'ai bien compris.
Absolument.
Le nom de ce projet, c'est Divine Chromatie.
Oui.
Voudrais-tu nous dire déjà, peut-être te présenter toi en tant qu'artiste peintre, et ensuite, effectivement, nous irons plus loin et nous parlerons à proprement parler du projet. Mais d'abord, la peinture et Philippe, histoire d'une rencontre.
Ouais, donc je m'appelle Philippe Fretz, j'ai bientôt 50 ans cette année. J'ai fait les Beaux-Arts à Genève, mais j'ai grandi dans les Préalpes vaudoises, dans une station de ski, Villars-sur-Rollon.
Oui, très beau.
Mon père était tapissier décorateur là-bas, ma mère l'aidait un peu pour le travail. Il y a une sorte de veine artistique qui s'est, je pense, développée dans ce contexte. Mon frère lui-même était également peintre, il est graveur, il s'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle Aréfiction. Ma sœur, elle est comédienne. Donc les arts ont été toujours très présents dans notre famille. Et pour mon frère et moi, c'était surtout les arts visuels. Et c'est vrai qu'on allait au musée. J'ai vite découvert en fait que j'avais des affinités très profondes avec le monde de l'histoire de l'art, avec la peinture. Et on faisait des visites de musées en famille, comme ça.
Qu'est-ce qui a déclenché, selon toi, cette volonté de peindre et ensuite de montrer les peintures? Parce qu'il y a deux choses dans le processus. Il y a le fait, effectivement, d'avoir des univers que l'on a envie de reproduire, en tout cas de faire sien au travers de la peinture. Et puis après, il y a le deuxième aspect qui est celui de dire je me livre, je me mets à nu et j'expose.
Oui. Bon, pour la première partie de la question, je pense que c'est vraiment la peinture des autres, comme ça, qui a déclenché quelque chose. On avait une prof en primaire aussi qui avait plein de cartes postales avec des reproductions d'art. Je me souviens que j'avais découvert comme ça, voilà, Van Gogh. Il y avait des gravures de Dürer reproduites comme ça. C'est difficile à expliquer ce qui a déclenché, mais effectivement, tout d'un coup, ben, j'ai commencé à copier ces choses aussi. Je les dessinais avec beaucoup de plaisir. Je me souviens quand je devais avoir 12-13 ans, je m'étais lancé dans un dessin pointilliste. Donc j'avais un stylo noir et puis je commençais à faire. Je crois que c'était un naufrage. Peut-être, c'était probablement une copie aussi, je ne me souviens pas tout à fait. Mais c'était la joie de rentrer dans un processus assez lent et puis de se dire, on va montrer ça plus tard. Et puis en fait, il faut un peu de patience, puis il y a une image qui se construit.
Et ensuite, tu t'es dit, à un moment donné, j'expose. Là, il y a une forme de courage quand même, ou d'inconscience.
Ou d'inconscience, oui. Ouais. J'avoue que j'ai eu vraiment de la chance au début parce que j'ai été assez vite sollicité, en fait. Quand j'étais assez jeune, même à 18 ans, assez rapidement, j'avais une prof qui me disait, montre-nous un peu tes peintures, mets-les au mur. Donc déjà à l'école, je me souviens, je faisais des accrochages de mes travaux quand j'étais au gymnase. J'avais une prof de dessin là-bas qui m'encourageait beaucoup, Marie-Jeanne Hott. Elle est absolument géniale. C'est vrai qu'elle nous a... On était plusieurs là, les élèves avec elle qui avons été, je pense, bien encouragés par son état d'esprit, très libre, très dans l'énergie, très accueillant. Et elle avait organisé des cours d'académie pour les gymnasiens, ce qui était une sorte de gageure, parce qu'effectivement, il a fallu demander des autorisations spéciales au directeur. Et puis, donc on sentait aussi une confiance. Comme ça, on faisait du dessin de nu à 17 ans, 18 ans. Et puis ça, c'était incroyable comme expérience aussi.
Et de la même manière, les Beaux-Arts, ensuite, quand tu as fait l'école, on t'a jamais demandé, on t'a jamais mis la pression en disant « Mais mon fils, tu feras un métier sérieux à un moment donné ?» Ou ce type, voilà.
Il y avait un petit peu de nervosité parce que mon frère, il avait déjà démarré un peu dans cette direction artistique. Et puis un peu le souci de mes parents, c'était de se dire « Mais est-ce qu'il se lance dans les arts pour imiter son frère ?» Ou bien est-ce qu'il a un vrai projet à lui ? Est-ce qu'il est juste en train de rêver, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on se lance dans un truc qui te garantit un futur économique très très stable. Non, je me souviens, il y avait une inquiétude, mais en même temps, je montrais que je travaillais, que j'étais vraiment sérieux dans l'intensité du travail, ce que mes parents voyaient. Puis bon, c'est vrai qu'ils ont été aussi très cool d'accepter que j'essaye les beaux-arts, quoi. Après, il y a aussi l'histoire, est-ce qu'on passe l'examen d'entrée ou pas. Une fois que j'ai été accepté, ils m'ont dit, lance-toi, on essaye. Il y avait aussi des bourses d'aide à l'étude à l'époque dont on avait pu bénéficier. Et puis, on s'est lancé. J'ai fait mes 4 ans d'études. Après, il y a eu un petit enchaînement aussi, un peu bénéfique ou assez étonnant, parce que j'ai gagné un petit concours en sortant des Beaux-Arts qui m'a donné un prix de 10 000 francs, ce qui m'a permis de dire, j'ai une année devant moi. Avec ce temps que j'avais devant moi, je me suis dit, je produis, j'essaie de voir si je peux préparer une prochaine exposition. Et puis je commençais à rentrer un petit peu dans ce fonctionnement-là. Une part de la décision, c'était aussi de se dire, je vais vivre très simplement. J'allais acheter mes habits à Emmaüs, ou bien comme ça, j'allais acheter mes pantalons pour 1 ou 2 francs. Puis on vivait à Moudon à l'époque, dans un logement qui était très très bon marché. On se chauffait au bois, c'était un peu comme dans les livres, quoi, la bohème.
Mais c'était une forme de stratégie finalement pour toi de vivre de cette manière-là, ou y avait-il d'autres objectifs dans ces choix-là?
Je crois que c'était une stratégie économique. Je me disais, si je veux faire ce métier, il faut que je vive avec très peu de moyens, parce que je savais que les rentrées seraient rares et quand même assez difficiles à faire au départ. Donc je calculais toujours en termes de c'est vrai qu'avec 12 000 balles, moi je vivais quasiment une année, donc on partageait un petit peu les achats. Mon frangin et puis Stéphane Zech, un autre ami peintre, étaient un peu en cohabitation. On était dans le même coin, dans la même maison. Puis on partageait les achats. Puis
oui, parce que ce qui coûte cher, c'est aussi la peinture, les toiles, les pinceaux,
toutes ces choses-là.
Donc là aussi, il y avait une forme de mutualisation, c'est possible
Un petit peu, parce qu'on achetait les toiles un peu chez un fournisseur en fait d'accessoires de théâtre vers Vevey, puis on avait tous la même adresse. C'est vrai qu'on avait des prix assez préférentiels. On n'allait pas dans les magasins de fournitures Beaux-Arts, quoi, parce qu'effectivement là c'était beaucoup plus cher.
Oui, l'Oretine à Genève,
On va pas citer les noms, mais il y en a certains, c'était pas dans nos moyens.
J'en profite, trop cher l'Oretine, trop cher. On va revenir bien entendu un petit peu plus tard quand on parlera à proprement parler de l'exposition sur les formats également des peintures, parce que là c'est un petit peu spécial et comment est-ce qu'on en arrive à cela. Mais avant ça, j'aurais voulu, si tu es d'accord, si tu as un petit peu de temps.
Ouais, moi j'ai du temps.
Oui, parce que j'aurais voulu qu'on s'arrête quelques instants sur la période d'études. Les Beaux-Arts, alors est-ce qu'on peut dire, parce que tu sais, il y a beaucoup de clichés concernant les études de toutes parts par ailleurs, est-ce que les études c'était le bon temps aux Beaux-Arts ou pas tant que ça?
Pas spécialement le bon temps. Enfin, pour moi, ça n'a pas dégénéré depuis, donc je ne peux pas dire, tiens, j'aimerais retourner aux Beaux-Arts, c'était sublime. Non, c'était une période pour moi de confrontation, je pense, bénéfique avec ce qui se faisait sur la scène, parce que moi, je descendais de ma montagne, en gros, et puis j'avais mes références de peintre, et puis tout d'un coup, j'étais confronté à une scène de l'art avec des pratiques que je connaissais pas, des profs qui m'ont amené quand même une connaissance de ce réseau, de ce milieu. Et je me suis assez vite rendu compte aussi que j'étais pas mal en décalage justement avec ma pratique, dans une période où on était à l'époque des nouveaux médias qui débarquaient, donc c'était assez de bon ton d'arrêter de faire des gamineries type dessin, peinture, et puis d'attaquer un peu les médias plus récents, et puis de rentrer aussi dans une démarche peut-être je dirais critique. Il y avait une sorte de vague comme ça. Alors si vous voulez, l'aspect critique, moi, c'est un truc que j'inclus également dans mon travail, mais peut-être que je le fais différemment, et puis que là, je me sentais en décalage.
Ok. C'est-à-dire que quand on arrive au Beaux-Arts, on y atterrit déjà avec son univers, ou est-ce que c'est au travers des pratiques et des apprentissages également techniques que l'on va recouvrir un, en découvrir un, sur lequel on va peut-être ensuite continuer toute sa vie peut-être, hein. Ouais. On dit des écrivains qu'ils réécrivent toujours le même livre d'une certaine manière. Est-ce un petit peu similaire avec les peintres, avec la peinture?
Ouais, moi je pense que c'est quand même similaire. Je pense que je suis quand même venu avec mon univers. Il s'est évidemment enrichi, il a été un peu mise à l'épreuve, et ça c'était très bénéfique parce qu'effectivement tout d'un coup on doit aussi un petit peu être solide derrière c'est ce qu'on veut faire. Mais oui, quelque part je pense qu'on peut dire qu'on fait toujours la même peinture. Là j'en ai d'autant plus l'impression maintenant avec ce travail Divine Chromatie, parce que un de mes premiers jurés aux Beaux-Arts c'était une illustration de Finnegan's Wake, James Joyce. Et c'était aussi des panneaux assemblés qui, mis ensemble, faisaient une grande fresque qui remplissait quasiment toute la salle. Si je me souviens bien, ça faisait 2 mètres de haut, 14 mètres de long, et puis c'était circulaire, donc l'image pouvait se refermer complètement sur elle-même, à l'image du roman qui finit avec un apostrophe et qui est donc repris par le premier mot du roman. Et là, avec ce projet-là, je me sens en fait un petit peu... Dans cet état d'esprit, je me dis, en fait, là, tiens, je suis en train de refaire un peu mon Finnegan's Wake de mes 50 ans, quoi. Alors qu'à l'époque, j'en avais 18, 19, je sais plus.
Ouais. Bon, là, c'est quasiment une installation.
Ça devient une installation.
Finalement, on déambule au travers et puis les angles font évidemment, là aussi, qu'on découvre d'une autre manière, qu'on appréhende l'œuvre d'art, qu'on peut l'appréhender de différents angles, de différentes manières.
Je vais l'exposer à Alnor, ici à Genève, où ils ont un très grand mur qui va pouvoir accueillir l'ensemble du projet. Il y aura trois peintures qui seront attenantes et puis qui formeront effectivement une sorte d'environnement un peu global. À un moment donné, j'ai même envisagé de mettre des sculptures au sol et tout ça, mais je crois que je ne vais pas rajouter 1000 couches, donc je pense que je vais probablement me contenter de ces deux murs qui seront déjà assez riches.
Oui. ce sera dans le silence ou bien là aussi tu souhaites produire une immersion sonore également?
J'ai pas pensé à
ça fait peut-être un peu
faire
trop,
une immersion. Ouais, tout est envisageable, mais non, pour l'instant je crois que je vais contenir
oui,
à
oui,
ça.
Oui. Non, mais je dis ça parce que je sais, on sait jamais, mais c'est vrai que l'idée de l'immersion visuelle, peut-être qu'elle profite du silence parce que ça permet à chacun justement de faire son parcours intérieur et puis de...
Ouais, absolument. Je pense que c'est aussi vraiment une question de temporalité. C'est une œuvre que j'espère en fait que les gens puissent la découvrir dans un temps assez long. C'est-à-dire qu'elle est quand même pensée pour justement déambuler avec l'œil, aller à la recherche des parcours que j'ai préparés en fait dans l'œuvre. Et puis, faire ce jeu quelque part aussi de reconnaissance, quelles sont les parties qu'on peut rattacher au texte, quels sont les moments aussi qu'on peut rattacher à Genève, puisque je fais une transposition à la ville de Genève pour un certain nombre de scènes. J'y représente le Rhône, j'y représente un certain nombre de bâtiments qui sont facilement reconnaissables, comme le bâtiment des forces motrices, ou bien la petite tour de Bel Air, etc. Mmh. Et puis, Alnor, le lieu d'exposition lui-même aussi est représenté.
Tu envisages d'y produire des visites guidées, ou à l'inverse, justement, tu préfères que les personnes soient, d'une certaine manière, lâchées dans l'environnement que tu auras déjà déterminé?
Non, je suis prêt à faire des visites guidées. J'aime bien faire ça. Je le fais assez souvent lors de mes expositions. C'est aussi chouette parce qu'on rencontre son public. On peut partager un peu quelles sont les réflexions par lesquelles on est passé. On peut parler un peu des chemins comme ça qu'on a pris, qui sont tous visibles, mais c'est pas facile de les déployer pour le spectateur forcément. Donc quand on prend un peu du temps avec les gens qui sont là, au fond on ralentit aussi le regard, on prolonge quelque part cette attention, Et du coup, on permet de que ce regard ben, aille dans les détails. Et puis, pour moi, ça fait partie du plaisir, en fait, de voir la peinture, de regarder la peinture.
Alors, c'est un exercice auquel nous, on aime bien s'atteler, c'est-à-dire faire des radiophoniquement des balades guidées dans les expositions des différents artistes, parce qu'il y a l'idée aussi justement d'être non visuel pour la radio, et donc ça donne à, on donne à entendre ce qui est donné à voir, et ça c'est assez intéressant également, donc peut-être qu'on fera quelque chose qui
ça serait avec plaisir. C'est vrai que c'est assez étonnant de passer par la parole pour imaginer l'image,
et puis là aussi de nouveau ça peut faire émerger certains recoins inattendu, qui sait des différentes choses à donner à voir. On comprend bien que le rapport au texte pour toi, il est quand même spécial, puisque alors on parle de James Joyce, on va parler incessamment de Dante Alighieri pour la Divine Chromatie, la Divine Comédie. Quand naît-il ce rapport à l'écriture? À quel moment est-ce qu'il émerge en toi? Tu te dis, voilà, ce que j'ai lu là, ce que j'ai découvert, je veux le mettre d'une certaine manière en image.
En image. Oui, ça se déclenche pendant la lecture. Il y a tout d'un coup des textes qui déclenchent des images qui sont vraiment fortes, qui sont tout d'un coup qui créent une sorte d'urgence. Je me dis là j'ai déjà une image devant moi. Et c'est vrai que quand je travaillais sur Finnegan's Wake, c'était assez excitant parce que c'est dans une langue complètement inventé, hein. Donc il y a un mot sur deux, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est vraiment une langue folle. Et en même temps, on reconstitue quelque chose par la sonorité. Le plot, c'est simplissime, quoi. C'est un gars qui meurt et puis qui ressuscite. Bon, voilà. Et par contre, il y a la description d'espace, il y a des mots qui déclenchent des images. Et du coup, c'est vrai que pour moi, je lisais et j'avais un carnet où je notais juste très brièvement les mots qui avaient déclenché l'image. Et puis ensuite, je retournais à l'atelier et puis je faisais bribe par bribe cette reconstitution.
D'accord.
Ça s'est passé avec ce texte-là, ça s'est passé aussi avec Nabokov. J'avais fait toute une série d'illustrations autour de Nabokov.
Alors, on ne l'a pas encore dit, hein. philippefretz.ch, c'est le site internet sur lequel on trouve énormément de choses depuis toutes ces années quand même. Là, il y a les séries, par exemple, là, qui sont indiquées. Enfin, il y a beaucoup de choses. Philippe Fretz, ça s'écrit donc philippefretz.ch, hein, en un mot. Ça, c'est le site internet.
Ouais.
On va arriver, effectivement, au projet L'Aquita, qui t'a mobilisé pour ces 5 dernières années. Une dernière question avant, et puis après, si effectivement une question émergerait autour de nous, eh bien, il y a un micro exprès pour. Hein. Est-ce que les vertus des images, quelles sont-elles les vertus des images que n'ont pas les textes? Est-ce que c'est par exemple la transcendance, l'universalité ou des choses comme ça? Parce qu'il y a certainement une intention qui t'habite au moment où effectivement, non seulement tu as une passion et puis tu as ce surgissement, voilà, et cette envie impérieuse. Y a-t-il également une intention?
Oui, il y a certainement une intention. Quelle est la puissance de l'image? C'est une excellente question. J'allais dire, paradoxalement, la force de l'image, en fait, c'est l'invisible dans l'image. Mais du coup, c'est peut-être la même chose pour le texte. C'est peut-être quelque chose qui recoupe tous les arts. Mais c'est vrai que c'est la part invisible qui m'a toujours semblé presque criante dans les images. Et au fond, c'est également cet invisible qui est un déclenchement, au même titre que quand on lit un texte, on a des déclenchements d'images dans nos têtes. Je pense que une image peut également déclencher en fait une sorte d'image invisible, presque une image cachée. C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, un jardin prise d'une représentation. Là, par exemple, j'ai devant mes yeux Mantegna, l'agonie dans le jardin de Mantegna. Là, il y a un paysage, par exemple, avec une lumière rasante qui déclenche. C'est plus qu'un jardin. C'est un jardin qui est dans le recoin de nos imaginaires. C'est un jardin qui rejoint nos jardins. Et en fait, la puissance de l'image, je pense, c'est ça, en fait. C'est d'ouvrir peut-être un imaginaire aussi commun, puis Du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, ça crée des lieux communs, ça crée des espaces de rencontre.
Très bien, très bien. Merci beaucoup, disons. C'est extrêmement intéressant. Alors, allons-y. Le We Make It, donc ça, c'est un... Le We Make It, c'est une... Comment est-ce qu'on peut appeler ça
en... un crowdfunding.
Voilà, donc ouais. C'est participatif. Les personnes peuvent, à ce moment-là, intervenir, faire des dons. Pour la Divine Chromatie, alors, je lis ce qui est indiqué sur, sur la page. Un projet de livre d'art rassemblant des peintures de Philippe Fretz, inspiré de la Divine Comédie de Dante, accompagné d'un texte de Fabrice Hadjadj et d'une introduction de Didier Ottaviani. Pardon. Alors, la Divine Chromatie, 5 ans de travail. Racontons un petit peu la genèse de ce projet.
Ça démarrait là aussi, effectivement, avec la lecture d'un texte. Mais avant d'avoir lu la Divine Comédie, j'ai comme goûté un peu à l'aura de Dante, parce que je vais régulièrement à Orvieto, en Italie, pour enseigner. Et Dante lui-même n'est jamais passé par Orvieto, mais il y a une chapelle là dans le Duomo, la chapelle San Brizio, qui est dédiée au Jugement dernier. Et il y a des fresques de Signorelli, là, de Luca Signorelli. Il y a un plafond de Fra Angelico avec des ajouts de Gozzoli. Enfin, il y a toute une équipe de la haute ligue là qui a bossé là-bas. Et puis il y a un certain nombre d'images qui sont tirées de la Divine Comédie. Il y a un portrait de Dante par Signorelli. Il y a la représentation du vestibule des lâches, donc qui est un espace dans l'enfer. Où les âmes qui n'ont jamais pris de décision dans leur vie sont poursuivies par des guêpes, et puis ils courent après un drapeau blanc qui représente l'absence justement de leur décision. Et puis il y a toute une thématique, il y a vraiment un programme iconographique dans cette chapelle qui est saisissant, qui tourne autour du seuil. Mmh. Donc justement, le vestibule des lâches, c'est vraiment un seuil, c'est avant même le premier texte, et puis c'est une invitation au spectateur à prendre une décision, justement, puisqu'on a le jugement dernier autour de nous. Et puis c'est comme si cette chapelle nous disait, ben maintenant, il faut prendre une décision, quoi. Pourquoi est-ce que tu t'engages? Quels sont tes choix, etc. Et toutes les images représentées, même de la Divine Comédie, sont des images qui parlent du seuil, c'est des entrées, l'entrée du purgatoire, c'est des images de passage.
Mmh, ouais.
Donc voilà, ça c'était mon initiation à Dante, c'est par cette chapelle et par cette ville au fond que j'ai entendu parler pour la première fois, parce qu'avant on en entend comme une référence littéraire, mais là tout d'un coup j'ai senti vraiment l'aura de Dante.
Avant de parler des peintures, à proprement parler, tu as voulu t'entourer de deux personnes, Fabrice Hadjadj et de Didier Ottaviani, qui sont tous les deux extrêmement impliqués dans ce type de choses.
Ouais.
Pourquoi ?
Fabrice Hadjadj, c'est un philosophe français installé à Fribourg, qui est directeur de l'Institut Philanthropos, donc un institut d'études théologiques. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai lu, que j'ai écouté en conférence, et puis qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle... Alors j'espère ne pas me tromper, c'est le paradis à la porte, sauf erreur, parce qu'il y a les titres sont très précis, mais je crois que c'est bien ça, le paradis à la porte. Il y a tout un chapitre sur le paradis de Dante dans ce livre, qui est vraiment très intéressant, qui m'a nourri aussi pour mon travail. Mm-hmm. Et voilà, j'ai pris contact avec lui, il a eu la gentillesse de me répondre, on s'est vu plusieurs fois, on est devenus copains, maintenant on se voit un peu plus régulièrement. Et du coup, j'ai aussi fait des dessins pour lui, pour un autre projet qu'il avait fait il y a 2 ans, sur des portraits de clowns. Et puis, après, je lui ai demandé s'il était d'accord de participer à ce projet-là. Et puis, il a gentiment accepté. Donc là, il est en train de bosser dessus. Là. Donc, je l'ai eu au téléphone hier. Donc, il m'a donné un peu le plot de son texte. Ça va vraiment être hyper intéressant. Il a choisi de faire parler 3 femmes qui tournent autour de Dante. Et donc, il y aura son épouse, donc Gemma Donati, qui est la personne que Dante a épousée. Il y aura Béatrice, évidemment, qui est son grand amour d'enfance et qui est la grande inspiration de son texte. Et puis, un personnage que j'avoue, j'ignorais un peu l'existence, c'est Antonia Alighieri, qui est la fille de Dante et de Gemma, qui est en fait ne s'est jamais mariée, est rentrée dans les ordres, et puis qui a pris comme nom de sœur Béatrice.
Ah, tiens.
Alors, c'est assez curieux hein, de se dire que sa fille a pris un nom d'emprunt quelque part, qui est le nom du grand amour de son père. C'est quand même très étonnant. Et donc, en fait, ça va être trois discours de femmes qui viennent un peu reprocher à Dante, font la relation qu'il a eue avec les femmes.
Très bien. Alors, voici pour Fabrice Hadjadj. Il y aura également une introduction de Didier Ottaviani,
oui,
qui est maître de conférence également.
Voilà.
Et là aussi, raconte-nous un petit peu cette rencontre.
Alors là aussi, c'est un texte que j'ai lu. Enfin, la première fois d'ailleurs, je l'ai entendu à la radio, Didier Ottaviani, sur France Culture, avec Adèle Van Rett, Les chemins de la philosophie. Mmh. Il a fait un magnifique interview autour de Dante et de la figure d'Ulysse, qui m'a vraiment passionné. Il a expliqué qui était l'Ulysse de Dante, qui est en fait très différent de l'Ulysse d'Homère, etc. Et puis pourquoi Ulysse est en enfer, alors que a priori c'est une figure plutôt positive, qui est la ruse, l'intelligence. Et puis en fait, chez Dante, il est en enfer, parmi ceux qui font de la fraude. Et donc, après avoir écouté cette interview, j'ai cherché son livre, qui est le résultat, je crois, de sa thèse, qui s'appelle « La philosophie de la lumière chez Dante ». J'ai pris pas mal de temps à trouver ce livre, parce qu'il était plus disponible. Bon, j'ai dû contacter plusieurs libraires. Et puis, la lecture de ce livre, vraiment, m'a aussi beaucoup influencé pour ce travail de peinture. Parce qu'il met en évidence le rapport qu'avait Dante à la lumière. Et combien la lumière qui contient toutes les couleurs, hein, puisqu'elle contient toutes les longueurs d'onde, et puis si on fait passer la lumière blanche à travers un prisme, ben on a une division en sept couleurs, on a l'arc-en-ciel quoi, qui apparaît. Et donc Didier Ottaviani, il met en évidence les sources de Dante. Quels sont les philosophes qui l'ont influencé? Et comment ces éléments sur la lumière ont imprégné la Divine Comédie. Et c'est vraiment assez passionnant, parce qu'effectivement, si on regarde par exemple le Paradis, le troisième livre de la Divine Comédie, c'est une montée vers la lumière. Donc on passe par 9 planètes, et chaque planète a effectivement comme une couleur. C'est-à-dire qu'on passe par Mars qui sera rouge, etc., Vénus plutôt verte, etc. On passe par toutes les planètes. Et donc on voit l'influence de ces philosophes de la lumière sur Dante, et combien il reprend ces éléments et puis il les transforme en quelque chose de poétique et de théologique.
Alors après tout ce que tu viens de dire, effectivement, la peinture est au centre, la couleur est au centre, la lumière est au centre. Hein, c'est vrai qu'il y a une importance. On avait récemment parlé du Titien concernant justement les forme de clair-obscur, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, ces éclairages qui révèlent des choses finalement. Alors voilà, quel a été ton travail? 5 années, ça veut dire que tu as dû, j'imagine, avoir un temps de réflexion avant de te mettre à peindre. Et les peintures prennent-elles du temps, elles?
Oui, donc j'ai commencé par l'élaboration d'un espace comme ça que j'ai construit de manière assez arbitraire. Au fond, c'est des suites d'escaliers. À l'époque, je travaillais pas mal sur ces thèmes justement de seuil, de passage, etc. Donc j'avais des terrasses, et puis je me suis dit, bon, je vais déjà disposer cette structure. Donc j'avais 9 terrasses reliées par des escaliers, puis je me disais, voilà, ça sera un peu l'espace dans lequel je vais développer mes 9 cercles. Donc ce sera comme des zooms sur des moments de l'histoire dans chacun des cercles. J'ai commencé avec ça. Cette série, je l'ai en fait quasiment, on peut dire, je l'ai terminée en fait après 2 ans, parce que je l'ai montrée dans une galerie à Lausanne. D'ailleurs, j'en avais vendu 2, donc ces 2, je les ai refaites pour recompléter l'espace. Et puis, bon, j'avais l'intention de faire ensuite la même chose pour le Purgatoire et le Paradis. J'ai reconstruit cette même structure sur mes panneaux pour les 2 autres livres. Et puis, il y a de ça maintenant, peut-être, je dirais, 2 ans, j'ai décidé de relier encore ces 3 espaces par des toiles qui compléteraient, qui feraient que ces trois espaces seraient reliés visuellement. Qu'on puisse également vraiment passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait la coupure des trois volets, si on veut.
On est de nouveau là dans un dispositif, dans une installation ?
Oui, clairement. Ça, c'est vraiment une forme d'installation avec un élément qui est très de l'ordre du cycle, puisque c'est à chaque fois la même structure qui se répète. Puis on pourrait imaginer que cette structure soit répétée à l'infini, comme une espèce de cycle de la vie. Comme
voilà,
ça.
Un mantra.
Ouais.
Une question un petit peu plus triviale d'une certaine manière, mais je pense qu'elle a son importance aussi. Qu'en est-il du choix des matériels et des formats, justement, des toiles ? Est-ce que ça a été problématique ou ça surgit comme une évidence pour toi ?
Alors, la technique elle-même, peinture à l'huile, je dirais que c'est une évidence dans le sens que c'est ma pratique, c'est le matériau que j'utilise depuis des années, que j'ai développé, puis que, voilà, que j'essaye un peu de maîtriser, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais ça offre aussi énormément de possibilités dans la construction d'une image. Ensuite, pour le format, ça faisait plusieurs années que j'étais sur ce 1m sur 1m20. Il y a un moment donné, on se fixe sur des formats qui nous conviennent. Il y a un autre format qui est une sorte de faux carré 170 sur 180 que j'ai utilisé beaucoup de fois. Je pense que c'est un rapport au corps, un rapport à l'espace qu'on déploie. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a la possibilité de s'immerger dans l'image, donc ça veut dire à partir du moment où le format commence à prendre une certaine ampleur, je commence à être plus à l'aise, j'ai peut-être plus de patience parce que je sens que je peux creuser, je peux englober un peu plus aussi l'œil. Et du coup, l'expérience visuelle est un peu plus physique. Au fait, on est un peu plongé. Moi, je suis obligé de me lever, de reculer. C'est aussi plus physique pour le faire. Donc, on a moins froid à l'atelier. voilà quoi. C'est un peu les choses qui étaient derrière ces différents choix. Et ensuite, il y a le montage. Donc, le fait que je les mette les unes à côté des autres. Bon, voilà, ça fait des multiples de 1 et de 12.
comment peins-tu, hein? Parce qu'on sait qu'il y a différents peintres qui ont besoin, justement, de poser leurs toiles, les surplomber un petit peu. Certains de les reprendre et puis, voilà, continuellement les changer avant de dire, voilà, là, je pense que c'est bon. On a différents exemples assez intéressants par rapport à ça. Alors, quelle est ta méthode?
Alors, une de mes méthodes, disons, c'est de construire toutes ces peintures de manière parallèle. Donc, j'essaie pas de finir une peinture et puis ensuite je passe à la suivante. Je les développe de manière parallèle. Donc, première couche partout, deuxième couche partout, un peu de dessin partout, un petit peu de ciel partout, jusqu'à ce qu'il y ait quand même l'image se construise de manière assez uniforme, si on veut, pour qu'ensuite je puisse développer un peu des détails dans cet environnement sans me dire « oulala, je suis très avancé là-bas, mais là-bas, j'ai à peine commencé. »
Il faut que ce soit simultané.
Un petit peu simultané. Ouais. Comme ça aide aussi à voir l'ensemble.
Quelles sont les contingences des huiles, justement ? Est-ce que, voilà, de quelle manière est-ce qu'on peint, justement, au travers de cette matière ?
Bon, moi, je suis vraiment un bricoleur. Hein. Je suis pas une référence d'un point de vue de la technique au sens, même si c'est une approche quelque part traditionnelle, mais elle est pas ancrée dans une cuisine très très précise. Elle est très expérimentale en fait. Et puis c'est au fil des années que j'ai acquis des chemins qui me conviennent. Et là, pour ce cas précis, au fond, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'utiliser l'huile avec ces deux aspects ou ces deux qualités, celle de la transparence. Donc on peut utiliser l'huile en la diluant beaucoup comme quelque part une aquarelle, c'est-à-dire qu'on couvre des grandes surfaces très transparentes et la lumière transparaît du fond avec s'il y a aucune préparation avant, le blanc ou si on met une couleur avant, ce sera la couleur qui sera en sous-couche. Et puis le deuxième aspect de la deuxième caractéristique de l'huile qui est la possibilité de monter en fait en matière. la peinture. Et du coup, d'utiliser notamment, par exemple, le blanc comme élément d'épaisseur qui, elle aussi, va crocher la lumière. Et donc, c'est comme deux manières d'approcher la lumière, soit par transparence, en utilisant le blanc du fond, ou en utilisant un blanc qui a une matière qu'on applique sur des couches successives et puis qui, au fond, vont prendre la lumière extérieure comme une mini-sculpture.
Oui, il y a ce relief.
Il y a ce relief, ouais. Et du coup, ces deux chemins, en fait, c'est un peu un équilibre entre ces deux chemins.
Une question peut-être complètement farfelue, mais justement, parce que justement, une des caractéristiques, comme tu viens de le dire, c'est ce relief qu'on observe dans les peintures à l'huile. Est-ce que ça permet d'une certaine manière d'iriser les images? C'est-à-dire que selon l'angle dans lequel on est, effectivement, la lumière frappe sur un angle, sur une paroi, et du coup, ça lui donne une texture différente selon l'angle ou pas du tout?
Oui, c'est tout à fait juste. Finalement, le côté de la lumière extérieure de sa source est extrêmement important. Et au fond, il y a une chose toute bête qui rend la chose plus facile. C'est au fond de décider pour l'image d'organiser une sorte de source principale de lumière qui correspond à la lumière dans l'atelier. C'est-à-dire que moi, j'ai mes fenêtres à gauche. Ça sera beaucoup plus simple de construire une image qui a une source de lumière à gauche. Les fois où tu fais l'inverse, je l'ai fait. C'est vrai que c'est plus compliqué. Quoi.
C'est intéressant.
Il y a des trucs un peu étranges qui se passent. Et du coup, on travaille effectivement aussi avec de lumière extérieure. Chose qui est très présente aussi dans la fameuse chapelle San Brizio dont je te parlais.
Ah, ouais.
Parce qu'il y a une lumière au fond de la chapelle, une source qui est une rosace assez élevée. Puis les peintures qui sont sur les murs latéraux, ils suivent la logique de cette source-là. Donc, s'il y a un personnage sur le côté, bon, si on fait face à la lumière, les personnages qui sont représentés à droite ont leur ombre portée qui partiront sur la droite.
Oui.
Puis à gauche, ça sera sur la gauche.
C'est fantastique, je veux dire.
C'est absolument génial. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté environnement et puis installation absolument respecté.
J'espère que tu as informé les personnes de la Halle Nord concernant justement les fenêtres dans le bon sens, ouais. Du bon côté.
Bon, on va organiser parce que j'aimerais bien boucher en fait les fenêtres qui font face, ouais. Puis garder surtout la lumière qui vient de la fenêtre de gauche.
Ouais. Ouais. D'accord, très bien, très bien. Alors justement, on parle de la langue parce que c'est le lieu où tu exposeras. Mais avant cela, eh bien, il y a le We Make It, donc le crowdfunding, comme on l'a dit. Ouais. À quoi servira-t-il ce crowdfunding?
Il servira à financer une publication que je suis en train de préparer. Je fais ça notamment avec mon frère. Donc mon frère, il est éditeur chez Art et Fiction, et puis il m'accompagne pour ce projet. Donc c'est assez génial aussi de pouvoir travailler avec lui. On s'est associé aussi avec un autre graphiste qui s'appelle Raphaël Rem, qui est un peu un voisin de travail parce qu'il a son bureau vraiment dans les mêmes locaux que nous à Art et Fiction à Lausanne, avec sa maison plein papier, qui est une maison de reliure notamment.
D'accord.
Et c'est un graphiste. Donc voilà, on a commencé un peu ces séances de travail pour aboutir à une publication. Et puis, donc, je me suis adressé à différentes institutions pour essayer de le financer. Et puis, pour compléter ce financement, on a lancé ce crowdfunding.
Donc, on peut dire qu'il est en bonne voie.
Il est en bonne voie, ouais. C'est vraiment incroyable.
Voilà. Donc, on donne les chiffres?
Ouais, on peut donner les chiffres.
Alors, au jour où on parle, donc c'est le 27 avril, eh bien, on en est à 4260 francs récoltés sur les 6000 francs requis.
Ouais.
26 contributeurs et il reste 28 jours. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il reste 28 jours. Donc, nous, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à se rendre via le site, ton site à toi, il y a le lien dessus.
Ouais, il y a le lien sur mon site. On peut aussi directement se connecter à wemakeit.com, qui est un site qui est vraiment bien fait. Il regroupe des centaines de projets en crowdfunding. Et puis, on peut contribuer avec n'importe quel montant. Le système, il met aussi en place des montants fixes qui viennent avec des contreparties. Et donc là, dans mon cas, le montant le plus bas, c'est 25 francs, où on reçoit un roman que j'ai écrit il y a 3 ou 4 années qui s'appelait Le Vestibule des Lâches. si on met 50 francs, on reçoit simplement la publication à la maison. Et puis à chaque fois, on est cité dans le livre comme donateur. Et puis je ne sais pas si tu as vu, je me suis amusé à citer quelques personnages de la Divine Comédie en fonction du montant qu'on donne.
Non, effectivement, c'est très bien fait. On encourage les personnes à aller découvrir ça. Donc, wemakeit.com/projects/divine-chromatie. Ça, c'est le lien direct. On le mettra de façon au libellé de ce podcast. Ou alors via ton site personnel, toi, dont l'adresse, évidemment, je vais être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est .ch.
Ouais. Ouais,
donc, c'est philippefretz.ch.
Exact. Hein.
Et là aussi, on mettra bien entendu le lien. L'exposition à la Halle Nord, ça c'est les dates
c'est Alors déjà le vernissage c'est le 14 novembre. Mm-hmm. Maintenant moi je dois finir mes images bien avant ça parce qu'on va les photographier en fin juin pour envoyer les fichiers.
Oui,
en gros moi il me reste 2 mois. Là.
C'est bon, pour nous dire qu'il faut qu'on arrête l'interview, il faut que tu partes.
Ouais non c'est clair que là ça devient assez chaud. Ça devient chaud, surtout que j'ai jamais vu ce projet dans son entier, puisque mon atelier, je peux mettre.
Pas tout, bien sûr.
Dans mon atelier, je peux mettre 6 peintures à la fois. Maintenant, on a un espace commun dans l'association où je peux mettre 10 peintures devant les yeux. Ça, c'est déjà pas mal. Mm-hmm. Puis maintenant, je vais voir si j'arrive à trouver un plan pour peut-être faire un échange d'atelier pour quelques semaines et puis pouvoir déployer l'ensemble pour finaliser.
D'accord. Eh bien, écoute, Philippe, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on arrive doucement au terme de cet entretien. On va rappeler, donc, le site internet, c'est philippefretz.ch, le WeMakeIt, donc, le crowdfunding, wemakeit.com/projects/divine-chromatie. Rappelle, le 14 novembre, donc, c'est le vernissage. J'espère qu'on sera de la partie, en tout cas, probablement
bien
pas
sûr,
loin.
J'espère. Ouais, je serai invité.
Et puis, alors, quand on est à l'aune comme ça de la fin, c'est pas la fin, mais de l'accouchement, voilà, de ce projet-là. Comment est-ce qu'on se sent? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est plutôt nerveux? Est-ce qu'on est impatient? Voilà, comment est-ce qu'on est?
Il y a de la nervosité quand même. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que plus on avance, plus on arrive vers la fin, plus on fait le compte des choses auxquelles on a dû renoncer. Parce que c'est vrai qu'un projet, avant qu'il soit réalisé, c'est un monde des possibles, et puis c'est une sorte d'infinité des possibles. Et là, maintenant, c'est vraiment se restreindre à quelques choix, et puis aller au bout de ces choix-là, sachant que on a mis 99% de l'œuvre de côté. Quoi. Parce que là, ça fait 5 ans dessus. Mais Dante, il a commencé en 1303, il a fini en 1321, donc il a passé à peu près 18 ans dessus. Je reste quand même un illustrateur bien modeste par rapport à l'immensité de l'œuvre. C'est un truc vraiment complètement fou, ce texte.
On viendra pour parler de ça, et pourquoi pas de projets futurs, parce que c'est vrai que James Joyce, Dante Alighieri, alors qui sera le prochain? On peut s'attendre à... J'imagine que c'est quelque chose qui ne t'habite pas encore, puisque tu es...
Ouais, c'est pas encore là. Maintenant, j'ai une forte envie d'aller vers du méga simple, c'est-à-dire, je vais aller peindre ma fille, ma femme, mon fils.
L'art brut.
Ouais, ou disons le sujet frontal, et puis basta, quoi.
Enfin, on dit ça maintenant, et puis après, les choses changent. Écoute, je te remercie beaucoup, Philippe. Je te souhaite un bon courage pour la suite des événements, et puis on se retrouvera de toute façon.
Alors, merci infiniment, merci de l'invitation, merci du temps passé à regarder aussi mon travail, et puis à tout bientôt, j'espère.
Merci à toi.